Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un 4e épisode du format Le Jour Où. Je reçois Emma, encore étudiante lors de ce moment marquant vécu en stage. Un épisode teinté d'une forte émotion, où Emma raconte comment une patiente en fin de vie a réussi à trouver les mots pour l'apaiser. Bonne écoute! Bonjour Emma!
Bonjour Marielle!
Je suis très contente de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui, d'autant plus que je te suis, mais on va en parler un petit peu plus tard sur ton compte. Donc on pourra en discuter un peu plus à la fin de l'épisode, mais un compte Instagram qui va plaire, je pense, aux soignants et aux non-soignants. C'est un très très beau compte. Je te laisse te présenter, Emma, pour commencer.
Donc bonjour à tous, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans. Et du coup, je suis infirmière depuis un peu plus d'un an. J'étais diplômée en 2020, donc promo Covid, comme on aime nous appeler. Donc là, je suis infirmière et actuellement, je travaille dans un service de réanimation soins continus, un peu spécialisé, puisqu'on traite tout ce qui est brûlure. Voilà.
Ah, très intéressant ça. On a un épisode dédié d'ailleurs sur les services des brûlés.
Je t'avais même envoyé un message en mode oh, c'est ce que je rêve de faire. Et puis là, c'est
adorable.
J'y suis.
Je perds un peu la notion du temps, mais ça doit être le 4e ou 5e
c'était
épisode.
C'était au tout début.
Ouais, avec Stéphanie, c'est un épisode passionnant, je me permets de le dire, s'il y en a qui veulent aller l'écouter, mais Stéphanie était incroyable. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu peux,
peux continuer. Le parcours est vite résumé.
Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter une expérience que tu as vécue lorsque tu étais encore étudiante.
C'est ça.
Voilà, une expérience qui est très marquante et qui va parler du deuil, qui est une étape de la vie qu'on traverse tous d'une façon ou d'une autre et sur laquelle j'avais vraiment envie de lever le voile pour qu'on puisse humaniser ces instants-là et je trouve que ton histoire est très très belle, donc je te laisse en parler parce que je suis certaine que ça va plaire à beaucoup de monde.
Bon, très bien. Donc, comme tu l'as dit, c'est une histoire qui s'est passée. Donc, j'étais en première année d'école infirmière. Du coup, j'avais 19 ans. Donc, j'étais vraiment toute jeune. Et en fait, c'était à mon deuxième stage. Donc, au mois de février, j'ai fait mon deuxième stage en EHPAD. Donc, en première année, nous faisions des stages de 5 semaines. Donc, un EHPAD de ville, une infirmière pour 70 patients, résidents même, puisqu'on parle de résidents dans ce genre de structure. Et au début du stage, voilà, j'étais beaucoup avec les aides-soignants, j'étais pas trop encore avec les infirmiers. Et puis, au fil des 5 semaines, en fait, on avait une patiente qui a commencé à se dégrader. Il me semble, au niveau de son dossier, de ses antécédents, qu'elle avait un cancer digestif qui était assez stabilisé et qui évoluait mais de façon assez latente. Et puis, à un moment du stage, voilà, je crois que c'était vers la 3e semaine, donc à peu près la moitié, elle a commencé à se dégrader, et du coup, à présenter tout ce qui est douleur abdominale, des nausées, vomissements, des diarrhées. Enfin, c'était vraiment compliqué, elle s'alimentait plus, elle avait des douleurs atroces, et on s'est vite rendu compte, enfin, les médecins se sont vite rendu compte que c'était son cancer qui reprenait un peu les devants. Et étant donné que nous, au niveau des soins, vu qu'on est très peu en effectif, on passe rapidement le relais à des équipes spécialisées. Donc là, l'équipe de soins palliatifs, parce que c'est une dame qu'on ne soignerait pas, elle avait 80 ans. On était vraiment sur un accompagnement palliatif.
Ces équipes, elles sont mobiles, je veux dire, elles se déplacent dans plusieurs établissements à votre demande.
Voilà, donc sur le CHU, on avait un service de soins palliatifs, donc là avec des hospitalisations. Et pour ce qui est des EHPAD ou même parfois même du domicile, il y a une équipe mobile spécialisée en soins palliatifs qui travaille avec le CHU et qui intervient auprès des équipes pour mettre en place des thérapeutiques, donc comme c'était le cas avec cette patiente, ou alors même pour accompagner les équipes dans leur processus de deuil, ou même sur la prise en charge, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi vraiment les soins palliatifs, parce que c'est quand même une notion qui reste floue aujourd'hui. Et donc du coup, c'est vraiment des personnes ressources, aussi bien pour nous soignants que les patients ou la famille même d'ailleurs.
Oui, c'est bien que tu le précises, ces équipes, elles ne sont pas là que pour le patient, c'est aussi pour tous les aidants, quels qu'ils soient, donc l'entourage proche et puis aussi les soignants.
C'est ça. Donc du coup, on a commencé à les mettre un peu dans la boucle, notamment pour tout ce qui est morphine. C'est une dame qu'on a rapidement mise sous... Alors il me semble que c'était un pousseringue ou une pompe à morphine. Donc une dose en continu qui lui était administrée et on faisait des doses charges avant les soins ou pendant qu'elle était vraiment douloureuse. Et puis il me semble aussi qu'il y a eu de l'hypnovel, donc des anxiolytiques qui ont été introduits, pareil pour essayer de la soulager au niveau de l'angoisse. Parce que c'est une dame qui était veuve, qui n'avait pas d'enfant et qui a accompagné en fait son mari sur sa fin de vie. Donc là, en fait, on ressentait vraiment qu'elle se rendait compte en fait que tout ce qui se mettait en place, c'était pour ses derniers instants en fait. Donc il y avait vraiment cette part d'angoisse-là à gérer.
Et très clairvoyante sur ce qui était en train de lui arriver, du coup.
Absolument. Et puis c'était vraiment ce genre de femme qui avait une personnalité très... voilà, c'était une femme de caractère. Elle avait un peu mal selon ses dires. Et puis on la voyait se déchirer de douleur et évaluer sa douleur à 7. Enfin, c'était vraiment... voilà, pas du tout dans la plainte, pas dans l'apitoiement de soi. Vraiment, on avait l'impression qu'elle attendait la mort. Les deux pieds... enfin, les deux pieds, enfin, vraiment sur ses deux pieds. Enfin, voilà, quoi. Elle était là. Elle se laissait pas abattre et... elle avait, enfin voilà, je pense que sa crainte ultime, c'était de lire la pitié dans nos yeux, quoi. Donc,
Et ça, c'était déstabilisant pour toi d'observer ça chez quelqu'un. J'imagine que c'était une
oui.
de tes premières expériences autour de la mort, finalement.
Alors, oui et non, dans le sens où bah, la mort, je l'avais plus ou moins côtoyée à mon premier stage, que j'avais fait aussi en gériatrie. Donc, c'est pas enfin, c'est les services où on a tendance à voir ce genre de situation. Et en fait, c'est bizarre, mais j'ai toujours eu une sorte de... pas de curiosité, mais ouais, à l'idée de me dire comment je vais gérer ça en fait, comment je vais réussir à gérer ça. Et du coup, je me suis dit, bon, dès qu'il y a un stage et que il faut que je m'y confronte rapidement, parce que c'est pas au moment où je serai toute seule dans le service à gérer mes propres patients que j'aurai depuis plusieurs semaines que je vais être en mesure de gérer tout ça. Donc en fait,
Bravo
c'était
d'avoir eu la
vraiment...
maturité de se dire ça, chapeau, hein.
Enfin, je pense que c'était un peu un mécanisme de défense de se dire, bah, c'est maintenant où je peux être soutenue, où il n'y a aucun devoir qui m'incombe de me lancer là-dedans plutôt que d'attendre d'être responsable de tout ça, de gérer tout ce qui est à côté pour vraiment m'y confronter. Donc, à mon premier stage, j'avais déjà eu je crois que c'était même ma première semaine de stage, une dame qui est décédée et en fait, elle était là depuis très longtemps. Donc, les équipes m'ont dit, Emma, on va aller lui dire au revoir à la chambre mortuaire. Donc, on te laisse là et en fait j'y repense mais c'est hyper déstabilisant. J'ai dit mais est-ce que je peux venir? J'ai jamais vu, enfin je sais pas en fait. Et je me dis là je la connais pas, c'est peut-être le moment en fait juste de voir. Et du coup j'y suis allée avec elle et donc j'avais déjà vu quelqu'un de décédé, j'avais déjà vu des personnes sur la phase descendante, enfin j'avais vu en fait toutes ces petites étapes de la fin de vie sur des patients que j'avais eu très ponctuellement. Donc du coup, enfin, ça, j'ai jamais vécu ça vraiment comme un traumatisme ou comme quelque chose de difficile en fait. Mais c'est vrai que là, avec cette femme-là, donc du coup, avec cette femme-là qui est au cœur de ce témoignage, il y avait vraiment, enfin, elle était pleinement consciente de ce qui se passait et elle s'était vraiment renfermée. Elle en faisait vraiment une histoire personnelle, quoi. Elle acceptait difficilement les mains tendues. Voilà, c'était vraiment sa fin de vie à elle et elle voulait faire son chemin toute seule.
Est-ce que
Voilà,
tu avais
quoi.
l'impression qu'elle essayait de vous protéger, vous aussi, en se protégeant elle-même? Qu'est-ce que c'était comme... C'est un peu compliqué comme question ce que je te pose, mais...
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais à vrai dire, je sais pas trop en fait si c'était pour nous protéger ou si c'était vraiment
Son mécanisme à elle de défense pour
plus
elle-même, quoi.
personnel, ouais, je pense. Je pense que c'était plus pour elle.
Je pose cette question-là parce que parfois des patients en EHPAD, voilà, en résidence gériatrique comme ça, les aidants, les aides-soignants, les ASH, etc., font presque partie de
Bien
leur
sûr.
cercle proche. Et voilà, je me demandais si elle vous considérait peut-être presque comme des personnes vraiment très très proches d'elle et qu'elle essayait peut-être de vous protéger. Mais c'est peut-être pas facile de se rendre compte,
Non, et
je
puis
dis
même
ça,
avec
mais...
du recul, c'est oui, une dame qui était assez solitaire, qui était à l'EHPAD parce que voilà, elle savait que bah, elle n'était pas entourée et que sa fin, elle n'était pas dans ses plus beaux jours forcément. Donc l'idée de se mettre dans un EHPAD, c'était vraiment de border un peu cette période et de se dire que bah, si jamais ça devait arriver, ça se ferait dans des bonnes conditions, je pense. Donc, non, je pense pas avec du recul, que ce soit pour nous protéger. Après, il y a peut-être des choses que j'ai occultées aussi et dont je faisais pas nécessairement attention, mais non, il me semble pas. C'était plus personnel, ouais. Donc, l'équipe de soins palliatifs, qui gérait du coup la morphine, l'hypnovel, elle avait également du Zofrène, enfin des antiémétiques pour, parce qu'elle mangeait plus, elle vomissait tout le temps. C'était très compliqué, quoi. Ça l'épuisait. Tout la dégoûtait, les odeurs, des fois on apportait le plateau et elle nous disait rentrez pas, ça me dégoûte. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'est vraiment, vraiment difficile. Et puis, bah, au fur et à mesure, elle devenait de plus en plus fatiguée. Elle mangeait au restaurant en bas, elle ne descendait plus. On lui a proposé de rester dans les étages, elle sortait même plus de sa chambre. Donc après, ça s'est fini avec un plateau qu'elle touchait même plus en fait. Donc c'était une compote, un yaourt et encore 2-3 cuillères, mais c'était très restreint. Les soins palliatifs, enfin l'équipe de soins palliatifs nous disait de faire des soins de bouche. Donc on faisait tantôt du café, tantôt du sirop. Enfin, on essayait de trouver un peu des saveurs, voilà, qui pourraient lui faire plaisir et la raccrocher un petit peu à des choses agréables. Mais c'est vrai que on sentait que, malgré toute notre bonne volonté, elle semblait vraiment renfermée. Et enfin, elle s'était presque faite une raison, en fait. Donc, quoi qu'on fasse, c'était pas suffisant. On continuait sur cette lancée. On passait très régulièrement, parce qu'on avait peur aussi, je pense, de la retrouver. Voilà, je pense que c'était une crainte de l'équipe d'ouvrir la porte et de la retrouver comme ça. Donc on se relayait, on prenait le temps de rester un peu plus longtemps, on mettait de la musique, on mettait des émissions de télé, on essayait vraiment de créer une sorte de présence pour qu'elle soit jamais seule, et finalement ça, c'est une des seules choses qu'elle a acceptées. On s'arrangeait, on se relayait pour rester un peu plus longtemps. Au moment du repas, il y en a une qui se détachait pour rester un peu avec elle, histoire de juste passer ce moment-là, même pas pour le donner à manger parce qu'elle mangeait plus, donc... Voilà, on essayait de se détacher un peu, et puis bah, il y a une journée, je crois que c'était même mon dernier jour, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien, si bien qu'on avait peur vraiment de la laisser. Et au moment des transmissions, bah, les équipes se disaient, bah, on fait quoi? Qui reste? Qui descend? Parce que les transmissions, c'était vraiment dans une salle de réunion en bas, donc on n'était pas à côté d'elle. Et bah, pareil, vraiment, c'est très, très instinctif, je me suis dit, bah, écoutez, moi j'ai pas de patient en charge, moi j'ai rien à dire aux transmissions, vaut mieux que ce soit vous qui. Moi je peux rester, au pire, qu'est-ce qui peut se passer de grave? Pas grand-chose, et au pire, je vous appelle et bah voilà, donc elle sera pas toute seule, moi je sais que vous êtes pas loin, et donc elle m'a dit, t'es sûre? Tu dis, de toute façon, on n'est pas loin, tu nous appelles, tu vois, il n'y a pas de souci, c'est plus logique que ce soit moi. Donc,
Et tu te sentais dans un climat sécuritaire où tu aurais pu faire appel à l'équipe si tu as eu des difficultés, t'as pris cette décision en confiance.
Oui, les assistantes m'ont regardée, c'était sûr. Limite, est-ce que tu as conscience un peu de l'état de la dame? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, moi j'ai vu la dame, je sais comment. Enfin, je vais pas être choquée de la voir comme ça, surtout que je la voyais ponctuellement pour les soins infirmiers, du coup, mais je la voyais quand même. Et non, non, elles étaient vraiment là en mode, de toute façon, on connaît le numéro de la chambre. Là, dans cette EHPAD, quand on sonnait, ça sonnait sur des téléphones portables qu'elles avaient tout le temps sur elles. Donc, elles voyaient qui sonnait, et je savais que si je sonnais avec le numéro de ma chambre, et bah, elles sauraient me trouver. Donc, j'étais pas inquiète du tout. Franchement, et c'est peut-être ça aussi qui m'a poussée à me proposer.
Sûrement,
Je
oui. Mais
pense.
c'est bien d'avoir un climat de confiance comme ça, surtout en tant qu'étudiant, c'est précieux, quoi.
Oui. Donc, du coup, je suis allée dans la chambre, les filles sont parties, et je suis vraiment rentrée à tâtons, quoi. Dans le sens où bah, je ne savais pas ce que j'avais derrière la porte, concrètement, et bah, comment elle m'accueillerait aussi. Parce que moi, je la voyais, j'entendais son histoire, mais je la voyais très ponctuellement. Je n'avais pas ce lien que pouvaient avoir les aides-soignantes ou les infirmières qui sont là depuis des mois, si ce n'est des années, quoi. Donc, c'est vrai qu'avant d'entrer dans la chambre, je me suis dit, Emma, est-ce que vraiment. Tu lui rends service, quoi, parce que c'est bien beau de te désigner pour intéresser à l'équipe, mais là, le principal, c'est quand même cette femme-là. Donc, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut y aller, faut y aller. Je me suis proposée, j'y vais, et voilà, ça va être l'histoire d'une heure. Donc, je suis rentrée, j'ai toqué, je suis rentrée tout doucement, vraiment comme un chat, vraiment à regarder rapidement. Et puis, je la voyais endormie. Elle a ouvert un œil, je me suis présentée rapidement, enfin, auprès d'elle. Je me suis dit « Bonjour, je suis Emma, je suis étudiante. L'équipe est partie en transmission. Et comme je suis là en plus, je me suis proposée de rester avec vous. Voilà, s'il y a besoin d'eau, s'il y a besoin de vous rafraîchir un peu, s'il y a besoin d'aller aux toilettes, s'il y a besoin de faire quoi que ce soit, je suis là. » Elle m'a dit « D'accord, pas de souci. » Donc, la chambre était pas dans le noir, mais vraiment tout petit jour. Il y avait la télé, mais vraiment au fond, ça semblait très loin. C'était vraiment une atmosphère, enfin voilà, hyper particulière, quoi. Et je la voyais comme ça, sur son lit, vraiment toute droite, quoi, demi-assise, à pas oser bouger. Et puis des fois, des soubresauts de douleur et c'est... En fait, je n'osais pas trop m'approcher. Et quand j'ai vu qu'elle était pas confortable et que voilà, il y a une vague douloureuse qui l'a traversée d'un coup, je lui ai pris sa main, en fait. Et j'ai commencé à lui caresser la main, à lui faire... Bah, je pense qu'on sait tous les petits ronds avec notre pouce au niveau de leur paume. Et en fait, je ne savais pas quoi faire parce que bah, je ne pouvais pas toucher aux seringues, je pouvais pas donner de médicaments, c'était en cours. Et puis... Bah, malheureusement, elle arrivait un peu au bout, quoi.
Mais ouais. T'étais là, t'étais à côté d'elle.
C'était, je pense, la seule chose que je pouvais faire. Donc, je lui ai donné ma main en signe que bah, j'étais là et qu'elle en faisait ce qu'elle voulait. Mais elle pouvait pas, ne pas être réceptive du tout. Puis, finalement, elle m'a serré la main. Donc, j'ai dit, bon, OK. Elle est quand même contente, je pense, ou du moins rassurée, apaisée qu'il y ait quelqu'un ici. Donc on est resté là un petit moment et en fait c'était vraiment voilà, j'ai dû rester une heure, c'était très silencieux. En fait, j'ai marché vraiment à tâtons, vraiment je marchais sur des œufs, je savais pas trop ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait en fait, je savais pas ce qu'elle voulait entendre. Je me suis dit je sais que elle veut pas sentir de pitié, mais je suis pas sûre que faire comme si de rien n'était c'est la solution aussi. Donc qu'est-ce qu'on dit en fait? Qu'est-ce qu'on dit?
C'est dur comme positionnement là.
Ouais. C'est compliqué.
Briser le silence au risque de dire quelque chose qui ne convienne pas, et puis à la fois faire comprendre qu'on a envie d'être là, et qu'on a envie d'aider, c'est dur, ouais.
C'est ça, et je sentais vraiment qu'elle en faisait, qu'elle en faisait une affaire très personnelle, quoi. Elle fermait les yeux, elle gérait sa respiration, je me suis dit, est-ce que je suis en trop? Et finalement, je la sentais serrer un peu plus mes doigts, je me disais, non, finalement, elle a peut-être besoin. Donc, je suis restée là, et... Alors après, les questions banales, quoi. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Est-ce que j'ouvre la fenêtre? Est-ce que vous voulez un gant d'eau sur la tête? Bon, là, je pense qu'il y en a eu une petite dizaine des questions comme ça en l'espace de quelques minutes. Puis à un moment, elle s'est retournée vers moi, elle m'a regardée. Elle m'a dit, mais vous savez, c'est dur de mourir. Et je l'ai regardée, j'ai fait, j'imagine. Et je me dis, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Parce qu'elle est très au clair. Je peux pas lui dire que ça va aller, je peux pas lui dire que... Enfin, j'en sais rien, en fait.
Ouais, c'est pas le moment de débiter des banalités ou c'est tellement fort et lourd comme moment que c'est...
C'est ça, et c'est les seuls mots vraiment qu'elle m'a adressés. Et je me suis dit, mais... Enfin, je me suis sentie bête, quoi. Et c'est une des premières fois, après, voilà, ça faisait même pas 6 mois que j'étais dans la formation et que, vraiment, j'étais auprès des patients et au cœur de mon métier, mais je me disais, mais... En fait, il va y en avoir des moments où je saurais pas quoi dire et où en fait, bah, la blouse blanche, elle me fournit pas toutes les réponses, quoi. Et je vais me sentir comme une idiote.
Et qu'on se prend des claques comme ça, oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais jamais les réponses parce que moi, j'ai pas vécu ça. Et ça, malheureusement, bah, ce que vivent mes patients, que ce soit dans une maladie, dans un deuil, dans la perte d'un travail, dans de l'inquiétude, moi, c'est des choses que jusqu'à présent, je n'ai pas connues. Donc, je sais pas quoi leur dire. Et ça, ouais, ça a été une première claque dans tout mon parcours d'étudiant et de future soignante, ouais, de me dire que, bah, en fait, les réponses, je les aurais jamais toutes, quoi.
Puis pas dans des livres, quoi.
Non, ça, on nous l'apprend pas. Et je pense que même l'expérience, elle nous fournit pas, tout ça, quoi. Parce que ça reste très personnel.
Et cette phrase qu'elle lance comme ça, est-ce que ça ouvre une discussion? Est-ce que ça change quelque chose à ce moment-là?
Ça n'ouvre pas de discussion parce que ça m'a un peu sciée, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, je saurais même pas quoi dire à ça. Donc ça n'a pas ouvert de discussion, mais j'ai senti que la configuration était différente. parce que je suis rentrée dans cette chambre avec l'envie de, pas de l'aider, mais de lui apporter quelque chose. Et là, j'ai l'impression que les rôles ont changé et qu'en fait, c'était elle qui me... Je pense qu'elle a vu que j'étais pas... Que je savais pas, en fait. Que je ne savais pas à quoi dire, que je ne savais pas quoi faire. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu désemparée, quoi. Que je me retrouvais un peu à pas savoir comment agir. Et en fait, elle a saisi... Enfin, je sais pas, vraiment en mode... Je sais ce que c'est, en fait. Je l'ai déjà vécu et bon, en fait, il n'y a rien à faire, si ce n'est que d'être là. Donc, ça a changé quelque chose dans le rapport qu'on avait l'une à l'autre. Là, c'est plus elle qui m'a soutenue que moi, je l'ai soutenue, en fait.
Ouais, c'est comme ça que tu l'as ressenti.
Je l'ai vraiment ressenti comme ça et avec du recul, je l'ai... Ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. En fait, c'est elle qui m'a accompagnée sur sa fin de vie.
Ah, oh, c'est fou.
Ouais. C'est vraiment la façon dont moi, je l'ai vécu.
Comme si elle te prenait sous son aile et puis qu'elle te disait « T'inquiète, ça... je connais. »
Ouais, c'est compliqué, mais ça... Enfin, il n'y a pas le choix de toute façon. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, ouais. Et je sentais que dans nos rapports... Enfin, moi, je continue de lui caresser la main et puis... Elle me serrait mes doigts en mode « T'inquiète pas. »
Oh là là,
c'est fou,
j'en ai des frissons
fou,
ouais. D'entendre ça. Alors, comment ça se termine, du coup, cette journée auprès de cette dame ?
Comment ça se termine ? Eh bien, ça se termine que les transmissions se finissent. Et donc, du coup, ce moment qui était un peu hors du temps, un peu en flottement, en fait, finalement, puisqu'on n'échangeait pas grand mot, en fait. C'était vraiment à travers nos mains, en fait, qu'on communiquait. Et la porte s'est ouverte, il y a l'aide-soignante qui est revenue. Et il y a eu toute cette agitation du service qui est revenue d'un coup, en fait. On entendait les sonnettes depuis le couloir, les gens qui revenaient, elle qui arrivait, qui commençait à ranger un peu la chambre. Et puis moi, je me suis retrouvée... Enfin, il y a eu vraiment ce contraste entre ce moment un peu hors du temps, toutes les deux, et le retour à la vie réelle, en mode, bah, il y a 70 patients, il y a des changes à faire, faut mobiliser la patiente pour pas qu'elle s'abîme.
On la réalité qui revient en pleine face, quoi. Et je suis sûre que le moment que t'as partagé avec cette dame, t'es incapable de dire si t'es restée 5 minutes ou une heure.
C'est ça. Sur le moment, j'aurais pas su dire, mais oui, les transmissions, en sortant, quand j'ai vu l'ampli, ah oui, une heure.
Et alors, comment ça s'est terminé pour cette dame, puisque donc j'imagine que l'issue, c'est qu'elle est décédée dans les heures, dans les jours qui ont suivi.
Voilà, donc c'était mon dernier jour, et en fait, j'étais de journée, donc là, quand la soignante est revenue, c'était 14h, 14h30 à peu près. Et avant de partir, à 16h, je suis allée la voir, et je lui ai dit, bon... Voilà, c'était mon dernier jour, donc je reviendrai pas demain. Et c'est bizarre parce que dire ça à ses patients, on le dit pas de la même façon parce que, enfin, je sais qu'en quittant mon stage, mes patients, je les reverrai plus jamais. Il y a très peu de chance. Mais c'est un au revoir, hein, si jamais on se croise peut-être dans une meilleure situation, dans la rue, voilà, des fois on en plaisante avec certains patients.
On lance quelque chose de léger comme ça, complètement.
C'est ça, ouais. Mais là, je sais que cette femme-là, c'est un adieu que je lui lance, quoi. Un vrai. Et du coup, les mots, pareil, je les trouve pas. Et je pense qu'elle le voit, elle me sourit, et elle me remercie. Et je sais qu'en fermant la porte, voilà, quoi. C'est fini. Et donc, c'était mon dernier jour. Et finalement, c'était vendredi. Et le lundi, j'ai dû revenir parce que la cadre était pas là et elle devait remplir toute la paperasse du sage. Enfin, bref. On voit très bien de quoi je parle, je pense, les étudiants sauront. Et donc, du coup, je suis revenue le lundi et je suis tombée sur l'infirmière qui était là vendredi. Et je dis, la dame, il s'est passé... Elle dit, elle est décédée dans la soirée ou le lendemain, quoi. Et je me suis dit, elle est partie. Ouais, comme si elle avait attendu, comme si elle avait... Voilà, je me suis dit, limite, elle a senti que j'étais pas prête. Et s'est dit, non, c'est pas le moment de partir, je vais attendre.
C'est complètement possible, c'est complètement possible. Ouais.
Après, est-ce que c'est une histoire que je me raconte pour me rassurer ? Je pense aussi, et puis c'est... Parce que je m'en suis voulu à un moment. C'est ça, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais en fait, elle sentait... Enfin, j'étais vraiment dans une sorte de psychose de me dire...
Elle sentait que
j'étais pas prête, du coup, elle a pas voulu lâcher prise.
Ah non, c'est humain de se poser ces questions-là. Non. Et puis... On apprend, et encore, toi, à ce stade de la formation, je ne sais même pas si tu t'es passé par ces apprentissages-là, mais on nous apprend voilà, à parler de la mort, à être confronté à la mort, tous les aspects aussi pratiques, théoriques qu'il y a autour, les déclarations de décès, etc. Mais ça fait partie de ces prises en charge qu'on n'apprendra jamais à l'école. C'est pas dans un livre qu'on va apprendre à gérer un décès, une fin de vie. C'est à son paroxysme de l'humanité qu'on puisse avoir pour quelqu'un. Enfin, Et puis toi, du coup, d'avoir été confrontée si vite, et je suis admirative de la maturité avec laquelle t'as pris les choses en main, je trouve fabuleux, quoi. Du haut de tes 19 ans, devant cette femme pour laquelle, c'est certain, tu as compté, parce que c'est beau comme histoire, quoi, c'est très beau. Et puis, qu'est-ce que ça a changé, du coup, pour toi, derrière, peut-être même pas forcément dans une prise en charge de fin de vie, mais est-ce que ça a révélé quelque chose en toi, ça a changé quelque chose ?
Ça, bah en fait, c'est quelque chose dont je me suis toujours... c'est vraiment une expérience qui m'a marquée. Je pense qu'on a tous un petit sanctuaire de patients qui ont compté pour nous. Et elle en fait partie. Je pense que ça a même été, peut-être pas la première, mais une qui a vraiment sa place. Et oui, ça a changé quelque chose dans mes prises en charge, dans mon rapport à la mort, tout simplement, à l'accompagnement qu'on pouvait proposer. Et aussi, oui, même personnellement, en fait, de me rendre compte que... dans une relation de soins, je vais pas arriver avec mon bagage de connaissances et dire « moi, la fin de vie, ça me connaît, j'ai appris, ça va se passer comme ça. » Pas du tout, en fait.
Est-ce que tu as appris à ses côtés ? Tu le remettras peut-être pas en pratique avec quelqu'un d'autre, ou alors pas avant plusieurs années
Absolument. Ouais. Et oui, c'est peut-être même plus personnellement que ça m'a appris que professionnellement.
C'est beau le mot, tu utilises le mot « sanctuaire », mais c'est vrai, je crois qu'on a... tous les soignants, je crois qu'on a une liste de gens. Enfin, moi, je me souviens de leur prénom, de leur nom, de leur visage,
J'ai tout en tête. Je pense, si je reviens dans l'EHPAD, je saurais dire si c'était cette chambre. Il y avait ça là, ça là, ça là.
Et parfois, c'est des gens qui ont des histoires plus ou moins compliquées. Mais c'est parfois que ça arrive à un moment de notre vie où ça nous touche plus qu'à un autre.
Oui.
Et puis parfois, on n'a pas d'explication. Il y a des profils qui nous touchent... plus que d'autres, ça se voit même parmi les soignants, quoi. Il y a des gens qui ont un attachement envers certaines personnes que d'autres ont moins. Mais c'est beau, quoi.
Juste une situation, à un moment donné, en fait. Moment donné, on était là, toutes les deux, sur un moment où elle avait besoin, où moi, j'avais besoin aussi, et voilà, en fait. Peut-être que sur une toilette ou sur une prise de sang, il n'y aurait pas eu cet échange-là, en fait.
Oui, c'était ce moment-là, avec cette personne-là.
Comme un rendez-vous, en fait.
T'étais seule, les circonstances étaient très particulières. Merci beaucoup, Emma.
Bah, avec plaisir.
C'était une des plus belles histoires que j'ai pu entendre à mon micro. Et bravo, et merci de t'être confiée sur tout ça. Du haut de tes 19 ans, je le rappelle, mais c'est vraiment... C'est fabuleux de pouvoir expliquer tout ça. Sans aucune transition, du coup, je voulais qu'on parle absolument de ton compte Instagram.
Oui.
Que je suis depuis pas mal de temps. Alors, j'ai plus trop la notion
du temps. Depuis le début, même, je pense.
Ouais, je crois, mais même avant que le podcast existe. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Parole de Blues ?
Ma Parole de Blues, c'est marrant parce qu'en fait, c'est en lien direct avec cette histoire-là. C'est cette envie, en fait, de donner vie un peu à ce sanctuaire, en fait, de garder une trace de ces rencontres, de ces choses qui m'ont un peu... qui m'ont marqué. Alors, peut-être pas aussi fortement, mais des choses qui m'ont fait rire, qui m'ont un peu chamboulé, des petites leçons de vie. En fait, Parole de Blues, c'est des phrases, des mots de patients que j'ai pu rencontrer, ou même de soignants.
De soignants aussi, oui, c'est ce que j'allais dire.
Que j'ai envie d'immortaliser, parce que à cet instant-là, ça m'a fait ressentir des choses, ça m'a re-questionné sur certains sujets, et j'ai envie de laisser une trace, quoi.
Et c'est très beau parce qu'il y a des paroles qui sont choquantes, révoltantes, il y a des très très belles paroles, il y a des choses extrêmement tristes, enfin, je trouve le contraste est magnifique, et ça donne une belle photo d'ensemble de ce qu'un soignant peut vivre pendant sa carrière, donc bravo pour ça.
Merci beaucoup.
Et que vous soyez soignant ou pas d'ailleurs, il faut aller suivre Parole de Blues, moi je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un compte que j'apprécie beaucoup, et puis merci. Je vois qu'il est très apprécié, donc c'est à la hauteur de ce que tu mérites.
J'ai pas mal de retours, et là, sur ces derniers mois, j'ai beaucoup de patients, donc des personnes qui ont des maladies chroniques, qui disent « c'est hyper intéressant d'avoir le retour de soignants, de voir comment ce que vous ressentez en fait quand vous nous accompagnez.
Ah, voilà, c'est beau ça d'avoir cette, d'avoir ce retour-là. Ouais, oui.
C'est ça, et c'est ce qui. C'est, au début, j'avais vraiment fait pour moi. Voilà, pendant le deuxième confinement, je me dis bon, faut que je m'occupe.
Et, ça commence et souvent pas, comme ça. Hein.
Non, mais c'est ça. Faut pas qu'il y ait un quatrième confinement. Je sais pas ce que je vais pondre, mais.
Qu'est-ce que tu vas nous créer?
Mais de voir que ça plaît et que ça résonne dans, chez d'autres personnes, c'est fort et, c'est, et ça donne envie de continuer, donc c'est top quoi.
Je trouve que ça humanise aussi le, ton métier, les métiers médicaux, paramédicaux en général. Oui. Et c'est très chouette. Longue vie à Parole de Blues.
C'est ça.
Merci beaucoup Emma pour ce partage. Et puis, bonne continuation, à bientôt.
Merci à toi aussi, à bientôt.
Êtes-vous vous aussi tout aussi émue que moi par la maturité et le recul dont Emma a su faire preuve après cet accompagnement? Je suis très heureuse de l'avoir reçue à mon micro afin de vous faire vivre ces moments si forts et très marquants dans la carrière d'un soignant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.